Vous écoutez Médien et nous sommes ensemble également sur Médien.com et notre application Médien Radio. Merci à vous de votre fidélité et notre invité aujourd'hui est aussi fidèle à ce rendez-vous. Najwa Yabi, bonjour.
Bonjour Mariam.
Vous êtes orthophoniste, merci beaucoup de répondre présente à notre invitation sur Médien.
Je vous en prie.
On parle aujourd'hui de surdité et surtout de ce rôle pour l'orthophoniste donc, ce rôle dans l'éducation auditive. Alors contrairement à d'autres pathologies du langage où il s'agit de rééducation, dans le cas de la surdité, il s'agit d'une véritable éducation. Vous êtes orthophoniste. D'abord, quand peut-on parler de surdité ?
Alors, on peut parler de surdité quand il y a une perte auditive qui correspond à un niveau d'audition qui est inférieur à celui qui est normalement déterminé pour une audition normale. Et les pertes auditives sont différentes. Chez certains, c'est une perte qui est comprise entre 40 et 70 décibels. Et là, on parle d'une surdité qui est moyenne. Et si la personne a beaucoup plus de mal à percevoir les sons modérés, et on doit lever notre voix pour qu'elle puisse mieux nous entendre. Chez d'autres, la perte est comprise, par exemple, entre 70 et 90 décibels, donc elle est sévère. Et là, c'est seulement les sons forts qui sont perçus. Et chez d'autres, c'est une surdité profonde. Donc, d'accord. C'est une perte qui est comprise entre 90 et 120. Oui. Et là, c'est impossible d'entendre tout type de paroles, sauf les sons très, très forts. Et voilà, le type qui nécessite surtout de l'implant cochléaire, c'est la surdité totale, ce qu'on appelle aussi la cophose. Donc ça, c'est une surdité qui dépasse les 120 décibels, rien n'est perçu. Et voilà, ces pertes-là sont liées à la partie du chemin auditif qui est endommagée.
Alors, à quel moment le diagnostic est-il posé, Najwa Yabi?
En fait, le diagnostic est posé dès qu'on constate une déficience auditive. Il faut qu'on consulte un médecin ORL pour préciser rapidement un diagnostic. Et pour ceci, il y a plein de tests qui se réalisent et qui nécessitent, des fois, l'intervention ou non du patient. Alors, de 0 à 3 ans, on peut remarquer un enfant qui ne réagit pas au bruit fort. Mmh. Alors, si c'est le cas, il faut consulter. Un enfant aussi qui ne tourne pas sa tête en direction de la voix de l'autre. Un enfant qui ne réagit pas quand on lui parle doucement ou quand on se place derrière lui. Un enfant qui ne regarde pas le visage et surtout, plutôt qu'il regarde le visage, et surtout, il s'intéresse à la bouche. Il fait de la lecture labiale, ce qu'on appelle, il lit.
D'accord.
Sur les lèvres.
Mmh, mmh.
Un enfant aussi qui a du mal à apprendre le langage, ces enfants qui apprennent le développement du langage se fait lentement, ils ont du mal à apprendre à parler rapidement. Et aussi au niveau du comportement, on peut constater chez ces enfants-là malentendants, soit une hyperactivité, une timidité, ces enfants qui s'énervent rapidement, qui refusent la séparation des parents parce qu'il y a la peur, ces enfants qui pleurent rapidement. Tout ça est le résultat de problèmes de communication et compréhension. Donc voilà, c'est comme ça que le dépistage décèle un risque de déficience auditive. Et à ce moment-là, il y a les tests qui se réalisent dans un cadre plus spécialisé pour définir le caractère de la surdité. Voilà, ce sont des tests parce que généralement les parents demandent. Alors, c'est des tests qui sont rapides, qui sont indolores. Et ils permettent d'examiner certaines cellules sensorielles, aussi d'enregistrer l'activité électrique du cerveau suite à l'émission d'un son, d'étudier la réaction de réflexe. Généralement, c'est comme les auto-émissions acoustiques, les PEA, l'audiométrie tonale. Donc, c'est des tests qui sont rapides. Après, c'est l'interprétation de ces tests-là réalisés qui va confirmer la présence de la surdité. On va identifier par la suite le type et on va déterminer aussi la réhabilitation la plus adaptée pour le patient.
Alors, comment, justement, on parlait tout à l'heure d'éducation auditive, comment ça se passe? Comment se passe l'éducation auditive?
Alors, généralement, après l'appareillage, c'est l'orthophonie. On s'adresse chez l'orthophoniste pour réaliser des séances de rééducation. La rééducation orthophonique est indispensable avec une aide auditive ou un implant cochléaire. Il faut commencer les séances pour optimiser les bénéfices de cette aide, justement. Et ceci se réalise à travers des exercices d'entraînement cognitif de la perception auditive. Donc, pour les tout petits enfants, je précise, les malentendants attendant, nous commençons par entraîner le patient à découvrir et intégrer le monde sonore auquel il est exposé, oui, afin de faire émerger, de maintenir et d'améliorer sa communication verbale. Effectivement, comme vous dites, l'éducation auditive est importante. Et ça se passe comment? En fait, on vise aussi le développement des compétences de discrimination des sons, l'identification des sons, la reconnaissance aussi des sons environnementaux et de la parole. Et comme il ne suffit pas d'entendre pour comprendre, donc réhabiliter l'audition aussi nécessite de cibler la compréhension des sons. Sans oublier un point qui est important, c'est que il y a l'installation d'un feedback, on cherche toujours, et ceci permet de corriger l'articulation et de mettre en place une boucle phonatoire pour réguler l'intensité de l'articulation et de la voix chez le patient.
Est-ce qu'on peut parler de différentes étapes? Je rappelle que vous êtes orthophoniste, Nejwa Yabi.
Alors, les différentes étapes, en fait, l'éducation auditive comprend plusieurs. Il y a la découverte des sons, la discrimination des sons, l'identification, la mémorisation, la localisation des sons. Et ceci se fait à l'aide des logiciels. À tout cela, ça ajoute aussi un travail de l'intensité, de la hauteur, de la durée et du rythme. Dans notre travail, nous utilisons des exercices pour développer le regard, la lecture labiale, l'emploi de gestes signifiants. Nous utilisons aussi différentes méthodes qui aident à mieux s'exprimer. Généralement, le travail de rééducation s'adapte aux besoins spécifiques de chaque patient et aussi nous prenons en considération le type d'appareil utilisé. Voilà, notre mission est d'informer les parents, les accompagner, soutenir les familles, développer l'audition, la parole et le langage du patient afin de l'aider à participer à toute communication verbale.
Alors justement, avant de parler du rôle des parents, de l'entourage, j'aimerais revenir sur les difficultés rencontrées de ces petits enfants ou de ces adultes qui viennent vous voir donc. Est-ce qu'il y a des difficultés qui reviennent assez souvent?
Alors en fait, généralement, les enfants difficiles auditifs ont des problèmes, surtout à l'école. Ils n'arrivent pas à dire qu'ils ne peuvent pas entendre, oui, ce que l'enseignant ou les autres élèves disent. Ils ne demandent peut-être jamais de répéter et parce qu'ils évitent d'attirer l'attention tout simplement sur leurs problèmes auditifs pour ne pas se sentir inférieurs. Et ceci crée des problèmes dans leur vie sociale. Donc ça, c'est généralement, on le constate chez tous les petits malentendants. Aussi, comme difficulté qu'on rencontre ces petits, c'est à l'école, un enfant malentendant, il consomme beaucoup d'énergie en classe. Voilà, il se concentre pleinement pour pouvoir comprendre le message et suivre le cours. Et en fin de journée, ils souffrent de fatigue générale et de maux de tête intenses. Et ils ont aussi des difficultés de compréhension parce que la compréhension, en fait, dépend du nombre de fréquences perçues par le cerveau. Par exemple, les aigus sont particulièrement importants car ils décodent les consonnes. Et donc, si l'enfant rate trop de consonnes, il ne pourra pas reconstituer le mot. Et voilà, par la suite, il ne va pas comprendre le message comme il le faut. Et donc, la compréhension aussi demande beaucoup de concentration. Donc, l'enfant est fatigué, stressé, et si surtout il y a un bruit qui le dérange, donc le message ne sera pas compris.
Ce rôle, justement, de l'entourage, on y arrive, de la famille également. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment et vivent cette situation, que diriez-vous à toutes ces personnes qui accompagnent donc une personne malentendante? Quel serait son rôle, finalement?
En fait, l'entourage joue un rôle très très important en s'adaptant à chaque situation. J'ai quelques pratiques qui peuvent faciliter les interactions avec le petit malentendant, comme par exemple dégager tout ce qui se trouve devant nous, que l'enfant puisse voir le visage en entier, favoriser la proximité pour que le message soit mieux capté, pour rendre le langage plus accessible, pour donner l'opportunité à l'enfant de comprendre le message, éviter toute distraction, bruit sonore pouvant perturber l'accès aux informations verbales. Nous demandons aussi à l'entourage d'éviter de parler à plusieurs simultanément. Donc voilà, il faut respecter le tour de parole, éviter les chevauchements de conversation. Comme ça, le petit pourra participer à la conversation. Et comme l'enfant passe aussi plus de temps à l'école, le rôle des enseignants est important. Donc en classe, les enseignants doivent toujours vérifier la prothèse, qu'elle soit bien en place, sur l'oreille, avec l'embout dans le conduit auditif, cognitifs, qu'elles soient effectivement en état de marche. Alors cette vérification est très très importante pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil, parce que si ça ne fonctionne pas, il faut avertir les parents sur place. Il est aussi recommandé à l'enseignant en fait, d'énoncer les consignes au calme et que l'élève soit en face et proche toujours du maître. Et dans certains cas, on demande une assistante de vie scolaire. Voilà. Des fois, pour aider l'enfant à réaliser ses activités scolaires et participer à toute activité justement en classe.
Alors, on va terminer avec vos conseils.
Alors, premièrement, je vais parler de l'utilisation des langues. Voilà, parce que c'est déconseillé chez les tout petits malentendants, vu les difficultés d'apprentissage de la langue que présente l'enfant. Il est donc incapable au départ d'utiliser plusieurs langues. Donc, on conseille les familles à parler une seule langue avec leur fils. C'est vrai que c'est des enfants sourds, ils ne sont pas capables au départ, mais plus tard, tout dépend de chaque patient, de chaque enfant. Et il y a la possibilité d'apprendre les langues, mais au départ, c'est déconseillé. Donc après, il faut inviter l'enfant à l'échange verbal et surtout utiliser un langage simple, des mots qui font partie du stock lexical de l'enfant. Aussi parler lentement et respecter l'articulation des sons en réalisant chaque mouvement lentement. Il faut toujours appuyer le message verbal quand c'est nécessaire par des gestes ou mimiques expressives. Il est aussi conseillé de rencontrer d'autres enfants sourds pour que l'enfant ne se sentira pas toujours seul à vivre sa différence, ce qui l'aidera surtout à prendre confiance en lui. Et donc voilà, il faut toujours être à l'écoute de l'enfant. Par exemple, ce que je dis toujours aux parents, c'est prendre des notes. Chaque fois que l'enfant se montre frustré ou en colère, on note son comportement, sa réaction. On essaie de travailler sur cela avec lui à tête reposée à la maison. Par exemple, l'enfant qui a refusé de partager un jouet avec un autre enfant dans un parc de jeux. Alors là, les parents doivent revoir avec leur petit ce que veut dire le mot « partager ». Et aussi le calmement à partager un jouet avec maman ou avec papa pour le préparer à de nouvelles situations auxquelles il doit faire face. Donc voilà, et généralement, il y a toujours un accompagnement qui se fait par l'orthophoniste, avec les parents et avec les instituteurs et avec toute personne proche de l'enfant. On accompagne, on assiste. Le rôle de l'entourage est très très important et ça permet d'aider surtout le patient sur le plan psychologique.
Merci beaucoup. Nejoua Yabi, je rappelle que vous êtes orthophoniste. Merci de nous être fidèles et d'être fidèles à ce rendez-vous sur Média.
Je vous remercie.
À très vite. C'est un entretien réécoutable sur notre site média.com.